Europe 1.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, deux bibliothèques différentes dans la même émission. Celle de Romane Boringer d'abord et une deuxième ensuite. Nous réécouterons la visite des livres de Philippe Tesson. Et à la fin de l'émission, l'équipe de chroniqueurs nous rejoint pour des romans, de la bande dessinée, des livres jeunesse. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. La comédienne Romane Boringer joue Respire en ce moment à Paris à la Scala. Une nuit, dans un couloir de maternité, une mère attend. Elle attend qu'on lui dise que son enfant nouveau-né respire seul. Elle parle à sa fille derrière la vitre pour lui donner envie de vivre. Il fallait bien une Romane Boringer pour assurer ça. J'avais envie de visiter les livres de Romane Boringer depuis longtemps et aussi un peu de voir le sépartement. L'appartement coupé en deux après sa séparation d'avec son compagnon Philippe Rebaud qui a donné le film L'amour flou. Elle a dit oui, on a rappliqué, on vous emmène. Bonjour Romane Boringer.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous. Enfin, quand je dis chez vous, on est dans le sépartement.
Vous êtes dans le
sépartement. Incroyable.
Oui, vous êtes dans ma partie du sépartement.
Je suis rentré, j'avais l'impression d'être dans un décor de film, puisque je rappelle que vous avez fait un film avec Philippe,
oui.
Votre ex-compagnon.
Oui.
Et quand vous êtes séparés, vous avez décidé de garder un grand appartement tous les deux, mais avec chacun son côté.
Voilà, qui s'appelle le sépartement. Et vous êtes donc passé par chez Philippe, vous vous êtes enthousiasmé devant sa bibliothèque.
Je crois que c'était la vôtre.
Voilà, qui est beaucoup plus enthousiasmante que la mienne. Donc oui, c'est ça qui est bien dans le département, vous voyez, à tout point de vue, c'est-à-dire que vous aussi bénéficiez de deux bibliothèques.
Ben oui.
Mais surtout, à la place d'une seule. C'est en quoi, je dis, cette vie est beaucoup plus riche qu'une autre.
Absolument, mais surtout, moi je me suis extasié devant la bibliothèque qui est dans l'entrée côté Philippe,
ouais.
Parce qu'il y avait toute la collection des livres de Richard Brautigan, ah ouais. Dont je parle trop dans cette émission, mais
c'est
tant
vrai,
pis.
Mince, on va en reparler ici.
On est obligé, parce que je vous ai dit, oh, vous avez plein de Brautigan, vous aimez Brautigan, et en fait, c'est plus que ça.
Ouais, en fait, moi, j'ai vraiment découvert Brautigan par Philippe, hein, je dois dire, quand on s'est rencontrés il y a une quinzaine d'années. C'est son poète, comment on dit, quand on a une. C'est son animal totem, c'est son poète totem. Mmh. Donc il collectionne tous les. Voilà, donc j'ai vraiment été prise d'amour pour Brautigan également. Et que j'ai découvert autant les romans que la poésie, qui est magnifique. Il est très présent, c'est vrai. Et puis on en a même fait une adaptation sur scène. On a adapté Un privé à Babylone.
C'est l'histoire d'un détective privé complètement loser.
Complètement loser, mais qui par moments s'envole dans un monde parallèle, son métaverse à lui, à Babylone, où il devient un espèce de détective
Dieu,
flamboyant, héros des femmes. Et c'est magnifique. Et on avait fait un spectacle là-dessus à Avignon, qui malheureusement n'est jamais sorti d'Avignon. On n'a pas eu un succès flamboyant, mais on adorait notre spectacle. Je jouais avec une demi-moustache et un impair. Et du coup, ça m'avait permis d'explorer ce texte organiquement.
Et là, on a C'est tout ce que j'ai à déclarer, qui est son recueil de poésie,
ouais.
Qui a été retraduit en intégrale par le Castor Astral, et qui est, en fait, il y a vraiment
extraordinaire.
Tout, c'est magnifique, quoi. C'est des tout petits poèmes très courts.
Il
y a Baiser fantôme.
Bah, moi, attends, il y en a tellement que j'aime. On en a mis dans le... Il y en a dans la série, dans l'amour flou. À un moment donné, il lit... Il lit des poèmes avec Monica Bellucci. Joli cul, on y perd tant et on y gagne tant avec ces mots.
Très Brautigan.
Très Brautigan, c'est trop beau, non? On y perd tant et on y gagne tant avec ces mots. Joli cul.
Ça aussi, il a deux versants, Brautigan. Il a un côté un peu comme ça, provoque, et puis il a un côté très...
très romantique,
je sais pas comment, nature.
Les lions poussent comme des roses jaunes sur le vent et nous tournons gracieusement dans le jardin médiéval. De leurs fleurs rugissantes. Oh, je veux tourner. Oh, je tourne. Oh, j'ai tourné. Merci.
Il pleut en amour.
Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne me fais pas confiance quand je commence à beaucoup aimer une fille. Ça me rend nerveux. Je ne dis pas ce qu'il faut, ou peut-être que je commence à examiner, évaluer, calculer ce que je suis en train de dire. Si je dis « Tu crois qu'il va pleuvoir ?» et qu'elle me dit « Je ne sais pas », je me mets à gamberger. Je lui plais vraiment. Autrement dit, je deviens un peu lourd. Un de mes amis a dit un jour, c'est 20 fois mieux d'être ami avec quelqu'un plutôt que d'en tomber amoureux. Il a raison, à mon avis, et à côté de ça, il pleut quelque part, ça programme des fleurs, et ça rend les escargots heureux. Tout ça, c'est réglé. Mais, si une fille m'aime beaucoup, et commence à être vraiment nerveuse, et soudain se met à me poser de drôles de questions, et a l'air triste si je donne les mauvaises réponses, et me dit des trucs du style « Tu crois qu'il va pleuvoir ?» et que je dis « Je n'en sais rien », et qu'elle dit « Oh !» et prend son petit air triste pour regarder le ciel bleu clair de Californie. Je pense « Dieu merci, c'est toi, baby, cette fois-ci, et non pas moi. »
Paf.
C'est trop beau, non?
Ouais, c'est génial. Et alors, il y a un côté anglais, l'autre côté, sur la page de droite, en français. Là, on est dans votre bibliothèque, je n'ai pas précisé, quand même, on est arrivé à la vôtre. Et je ne sais pas, quel est votre rapport aux livres? Comment vous les ranger, les consulter, aller les chercher, les fouiller?
Bah, vous voyez, hein, c'est vraiment... C'est totalement bordélique, c'est un amoncellement. Ouais, vraiment. Et d'être avec vous aujourd'hui, ça me donne envie de la ranger, évidemment. Parce que, en fait, il y a des choses très précieuses noyées au milieu de choses complètement anecdotiques, ramenées d'un festival à droite, offertes d'un... Enfin, donc, du coup, ça ne met pas en valeur...
Et vous la rangeriez comment ?
Ce que j'aime.
Par ordre alphabétique et tout, non ?
Non, je ne crois pas. Je la rangerais, bah, si, un peu quand même, par auteur. Allez, disons par auteur. Ou...
Et qu'est-ce que vous ferez des livres dont vous ne voulez plus ?
Mais en fait, c'est ce qui s'est passé. Quand on a déménagé là, j'ai dit, parce que je n'avais pas une immense bibliothèque ici et tout ça, je me suis dit, allez, je me débarrasse de tous les livres que je n'ai pas lus, que je ne veux plus. Je garde vraiment les iconiques.
Ils sont partis où ?
Les autres, en carton, déménagement. Alors, c'est des trucs glanés au fur et à mesure. Alors, j'avais cette espèce de truc de partir que avec les essentiels. Après, les essentiels se sont à nouveau noyés dans de nouveaux non-essentiels.
Là, il y en a un qui a bien vécu.
Ouais.
C'est Georges Perec, La vie mode d'emploi.
Ouais.
Il est corné partout.
Parce que c'est mon co-scénariste, Gabor Rassov, qui me l'a offert. C'est le sien.
Vous adorez Perec ou...
Ouais, il y a quelque chose qui m'entête.
C'est drôle parce que Perec, physiquement même, il ressemble un peu à Brötigan.
Ah bah...
C'est un peu la même époque d'ailleurs.
Ouais, c'est
ils ont l'air d'être des chouettes types comme ça, de loin.
Ouais, c'est vrai, totalement.
Ça compte aussi ?
Oh, c'est mieux, c'est beau, ouais. Ouais.
Mais si c'est un auteur qui est un salopard, vous pouvez le lire quand même ou ça vous bloque ?
Moi, du coup, je préfère lire les... Comme il y a beaucoup d'auteurs merveilleux, je préfère lire les non-salopards.
Tant qu'à faire, oui, vous choisissez, choisissez cela.
Moi, je ne lis pas Céline.
Ah d'accord, par principe, ok. Ouais.
Je sais que c'était un grand...
Non, mais c'est intéressant, justement.
Bah, c'est-à-dire que c'est vrai que je préfère lire... je sais pas. Je préfère lire Death Note que Céline.
Il y a le gros Death Note de chez Quarto, là.
Ouais. Donc, c'est vrai que c'est... Si je le sais pas, je le sais pas. À partir du moment où je le sais, c'est vrai que je préfère à choisir, m'orienter vers ce que je vais découvrir.
Pas de prime à la vermine.
J'aimerais mieux dire qu'est-ce que j'aime chez Perec tellement il m'obsède. C'est la manière dont il éclaire aussi. Ouais, par exemple, un de mes livres préférés que je relis souvent, c'est Ellis Island. C'est un tout petit bouquin.
Qui raconte quoi ?
Qui raconte comment il a été à Ellis Island. Sur ce lieu qui a été un point d'arrivée.
Qui est la petite île de passage de douane aux États-Unis.
Aux États-Unis, juste avant l'Amérique, pour des millions et des millions vers les années 1900, des millions d'exilés. La manière dont Perec parle des racines, d'être quelqu'un de déraciné, en permanent exode. Ce petit bouquin, Ellis Island, il éclaire ma vision du monde, par exemple. Un de mes préférés. W ou le souvenir d'enfance, carrément, il me laisse bouleversé.
Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Bah lui, il y a la quête impossible de ses souvenirs d'enfance, la quête morcelée, la quête fragmentée, l'accès à sa mémoire fracturée, enfin vraiment qui me touche infiniment. Et le livre procède par alternance de chapitres. Un chapitre sur sa quête à lui et celui d'après sur cette île improbable dont le sport régit, le sport et la compétition régit la vie de ce petit îlot, de ce royaume. Et en début, on ne comprend pas bien, enfin moi qui suis très néophyte quand j'ai découvert le livre, au début on ne comprend pas bien le lien entre les deux. Puis c'est de la description de la dictature, de la... Ce livre, par exemple, pour moi, c'est une folie.
Mon Dieu, il y a du stabilo partout.
Oui.
Vous stabilotez ?
Ouais, c'est pas bien ?
Pas de jugement, mais il y a différentes écoles. Il y a ceux qui touchent jamais au livre.
Ah, moi, j'adore. Et
vous, ils sont cornés. Il y a du crayon de bois ou crayon papier, ça dépend de où on vient. Ouais. Et puis du stabilo. Mais stabilo, c'est quand même hardcore, quoi.
C'est vrai ?
Je sais pas.
C'est un blasphème.
Non, je sais pas. Pourquoi vous avez stabiloté ça ?
Moi, j'adore parce que d'abord, bon, c'est pour ma petite mémoire. Hein, d'abord, c'est des phrases après qui m'accompagnent, qui me. Ah oui, j'adore, c'est vrai. Mon enfance fait partie de ces choses dont je sais que je ne sais pas grand-chose. Elle est derrière moi. Pourtant, elle est le sol sur lequel j'ai grandi. Elle m'a appartenu, quelle que soit ma ténacité à affirmer qu'elle ne m'appartient plus. J'ai longtemps cherché à détourner ou à masquer ces évidences, m'enfermant dans le statut inoffensif de l'orphelin, de l'inengendré, du fils de personne. Mais l'enfance n'est ni nostalgie, ni terreur, ni paradis perdu, ni toison d'or. Mais peut-être horizon, point de départ, coordonnées à partir desquelles les axes de ma vie pourront trouver leur sens. Même si je n'ai pour étayer mes souvenirs improbables que le secours de photos jaunies, de témoignages rares et de documents dérisoires, je n'ai pas d'autre choix que d'évoquer ce que trop longtemps j'ai nommé l'irrévocable, ce qui fut, ce qui s'arrêta, ce qui fut clôturé, ce qui fut sans doute pour aujourd'hui ne plus être, mais ce qui fut aussi pour que je sois encore.
Mais ça veut dire que vous lisez, c'est magnifique, mais vous lisez avec votre stabilo, ou alors vous lisez une première fois.
Ah non.
Et puis vous y revenez stabilo.
Ah non,
en main.
Voilà. Non, je lis, je plonge, je pleure, je referme, je relis. Et puis tout d'un coup, je suis en train de penser à un truc, ou je travaille sur un truc, et je me dis. Ah, mais il y avait ce passage extraordinaire, ça m'a tellement touché, et je repasse, et je le salope.
Vous avez dit que vous étiez en train d'écrire un film sur la mémoire.
Ouais.
En matière de mémoire, il y a l'écrivain qui se pose là, c'est...
Vous êtes choqués.
C'est Marcel Proust,
ouais.
À la recherche du temps perdu. Il est là, ouais. Dans la vieille édition Gallimard classique. Mais ouais, je suis un peu choqué, parce qu'il a pris cher, là, le
ouais,
livre.
Lui,
là, il y a plein de petits papiers, ouais. Qui débordent de
c'est
partout.
Quoi ouais.
Des bouts de magazines, des listes de courses, je sais pas trop, je vais pas fouiller. Hein. Et puis il a été comme s'il avait, pris l'eau, il a morflé quoi. Et puis alors je peux pas le dire parce que c'est blasphématoire,
on
mais
le dit pas.
Sur le titre, c'est
à
la recherche du temps perdu et quelqu'un a rajouté trois mots comme ça,
ouais.
au bic.
Si on lance un concours.
Ouais, d'accord. Continuez à la recherche du temps perdu, il y a trois mots.
C'est ça. Alors, à la recherche du temps perdu, trois petits mots. C'est pas moi qui.
C'est suivant la réponse à la question où.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Ouais. On ne dira pas plus. Mais qui a marqué ça ?
Alors, c'est pas moi. Je vous jure que c'est pas moi. Quelqu'un a fait ça, je ne sais pas.
Et alors, Proust, pour vous, c'est justement sur la mémoire et tout. Sur le...
J'avais fait aussi un spectacle sur Proust avec Michael Lonsdale, avec, où on lisait des extraits. Alors moi, je dois avouer que j'ai cette chance extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi, je me suis toujours considérée comme assez inculte, de base. Non, mais c'est vrai.
D'accord.
Je considérais être par... Je disais
c'est
pas...
C'est pas ce que vous renvoyez, mais...
Non, mais je ne disais pas beaucoup quand j'étais... Enfin, je remarque, je dis ça, j'adorais Zola et tout ça. Bon, oui. Je n'étais pas, ni au-dessus, ni en dessous. J'étais dans les livres que je lisais au lycée. Enfin, je n'étais pas une lectrice... Donc j'ai toujours été assez, pas complexé, mais j'ai démarré disons, en me disant « je sais rien, j'ai lu rien ».
Quelle la sagesse même.
Et j'ai cette chance inouïe que mon métier m'ait fait découvrir à travers ce que moi je connais de mieux, c'est-à-dire le corps ou la scène, ou des auteurs qui m'ont envahi, quoi. Mais, et je le dis vraiment, c'est de manière hyper, hyper directe, quoi. C'est-à-dire, Proust, je l'ai dit sur scène. Quelque part, je ne l'ai jamais mieux découvert qu'en le disant sur scène et en le disant plusieurs jours d'affilée, plusieurs représentations.
C'est pas évident de les lectures comme ça, de lire.
Non, avant, je détestais ça. Je trouvais ça ça m'est très à nu et tout ça. Mais petit à petit, on m'a proposé parfois. Et par curiosité, j'avais envie de le faire. Pas par amour de faire des lectures sur scène, mais je me disais, tiens. Donc Proust, je l'ai découvert beaucoup en lisant sur scène. Hugo, j'avais fait un spectacle avec Isabelle Carré sur Hugo.
Et on a fait la bibliothèque d'Isabelle Carré. Magnifique.
Elle est grande lectrice.
Grande lectrice de Carson McCullers, ce que je vois chez vous aussi, mais dans la vieille édition. Elle avait, la nouvelle édition Stock. Parce qu'il y a eu un retour de Carson McCullers récemment.
Ouais.
Et bon, voilà, c'est une autrice magnifique, américaine.
Bah oui,
je vous ai coupé.
Voilà, avec Isabelle, par exemple, on avait fait un spectacle assez exigeant. Enfin, c'était difficile de monter Hugo sur scène. Voilà, j'ai découvert Hugo comme ça, tout comme j'ai découvert Shakespeare, tout comme j'ai découvert Annie Ernaux sur scène. Ce que je veux dire, c'est que moi, je vais jouer à un spectacle de Cocteau, donc là, je viens de découvrir Cocteau. J'ai cette chance que mon métier me rende moins bête que je n'étais en me faisant vivre de l'intérieur des textes puissants.
Et alors, Annie Ernaux, vous en parliez, vous avez joué même Annie Ernaux, je crois, elle-même, quoi, vous avez joué des textes, quoi.
J'ai joué L'Occupation. Daniel Arnaud, qui est un récit sur le monde effrayant de la jalousie qu'elle a traversé.
C'est ça.
Qu'elle a traversé.
Et donc c'est un peu elle, puisque elle raconte toujours son histoire.
Oui, c'est elle.
Et donc là, vous en avez plein, évidemment. Vous la connaissiez avant justement de vous en emparer.
Bah c'est pareil. Non, c'est mon metteur en scène, Pierre Pradinas, qui m'a proposé ce texte. Donc je suis rentrée chez Annie Arnaud par L'Occupation, qui est vraiment c'est pas celui qu'on connaît le plus d'elle, mais c'est absolument fascinant comme texte.
Attendez.
Mon premier geste en m'éveillant était de saisir son sexe dressé par le sommeil et de réciter ainsi, comme agrippé à une branche. Je pensais, tant que je tiens cela, je ne suis pas perdu dans le monde. Si je réfléchis aujourd'hui à ce que cette phrase signifiait, il me semble que je voulais dire qu'il n'y avait rien d'autre à souhaiter que cela, avoir la main refermée sur le sexe de cet homme. Il est maintenant dans le lit d'une autre femme. Peut-être fait-elle le même geste de tendre la main et de saisir le sexe. Pendant des mois, j'ai vu cette main et j'avais l'impression que c'était la mienne.
Mais c'est hyper dur, en fait, de connaître un texte de théâtre qui est fait pour jouer avec une réplique en face. C'est fastoche. Mais connaître un texte comme ça par cœur, ça me fascine, moi. C'est idiot parce que c'est le côté pratique du truc, mais...
C'est ma mission.
Je sais pas comment vous faites. Vous faites comme un enfant
Une ligne,
encore.
Deux lignes, je refais les deux, j'attrape la troisième, quatre, cinq. Mais c'est fascinant parce que après, on a un espèce de trésor intérieur magnifique. Moi, je trouve que, par exemple, ça fait partie de ces auteurs qui m'éclairent sur le monde, sur notre époque, sur l'humain, sur... est-ce que vraiment tout le monde le dit sur elle? C'est vraiment bateau de dire ça maintenant, mais... Ce qui est extraordinaire, c'est quand elle touche à l'infini petit, à l'intime de détail. On dit toujours qu'elle va jusqu'à épuiser ses sujets, et c'est vrai. Dans L'Occupation, par exemple, elle épuise le sentiment de jalousie. Elle l'aspire jusqu'à la moelle par l'écriture. Mais voyez, par exemple, La Place, qui est le livre sur son père,
je crois. Qui était par là, je l'ai vu tout à l'heure.
En disant son monde à elle et son... Et le plus petit, le plus minuscule de ses souvenirs, elle décrit toute la classe ouvrière, elle décrit ses livres importants. Alors, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire Nobel exactement, mais Les Années, c'est un livre quand même qui épouse, qui dit une époque. Enfin, je ne sais pas, moi, c'est un endroit pour rentrer. C'est un endroit d'écriture pour rentrer dans la sociologie et tout ça qui me fascine. J'avais fait un truc génial, je digresse, hein, mais
allez-y.
Il y avait eu un truc génial pendant le confinement qui avait été initié par le Théâtre de la Colline. Ils avaient choisi toute une troupe, 150 acteurs, je crois. Alors certains connus, d'autres pas du tout, vraiment les gens qui voulaient. Des acteurs lecteurs. Ils avaient prévenu un public très large, ça, que s'ils avaient envie de participer, ils déposent leur numéro de téléphone. Vous avez entendu parler de ce
truc ? Non.
C'était extraordinaire. Donc des gens... laissaient leur numéro de téléphone à la Colline, d'accord. Et donc, nous, on nous appelait vers 14h en nous disant, ce soir, vous avez rendez-vous avec Myriam au 06-19. Vous allez lui faire la lecture.
Oh, c'est drôle.
C'est extraordinaire. Il y a eu plus de, je crois, 5000 lectures pendant le confinement. C'était extraordinaire. Donc, moi, je m'enfermais dans ma chambre.
Et vous avez lu quoi?
Et j'appelais quelqu'un. Et alors, des fois, tu tombais sur une famille entière qui attendait dans le salon, une vieille dame toute seule qui attendait ce moment et qui se réinscrivait tous les soirs pour avoir quelqu'un qui lui lise. C'était extraordinaire.
Mais vous des disiez, c'est Romane Boringer? Ou alors c'était un peu anonyme?
Non, je disais, je m'appelle Romane Boringer. Oui, moi, je disais mon nom. Mais encore une fois, il n'y avait vraiment pas tant d'acteurs connus que ça.
Oui, je sais, justement. Peut-être que...
Oui, alors moi, c'était un peu particulier parce que les gens...
C'est marrant d'avoir la aussi, quoi.
Alors,
j'imagine que vous n'avez pas trop ce statut-là.
Non, mais ça crée le fait de dire oui, je suis moins un lambda qu'un lecteur. Ouais. Donc des fois, ça faisait des petites rencontres comme ça. Mais bon, c'était pas le thème vraiment. Et j'ai vécu des moments extraordinaires en faisant ça. Et j'avais choisi. Et ben, il y avait Annie Arnaud, un petit ouvrage qui s'appelle. Donc j'avais fait des coupes et tout ça. C'était et donc tu donnais à l'auditeur le choix. Si vous préférez entendre Annie Arnaud. Moi, j'avais choisi Annie Arnaud, Édouard Louis et un livre de mon père.
Ah bah justement, je voulais venir. Parce qu'il y en a deux, des livres de Richard Boringer. Et je me suis toujours dit, en fait, Richard Boringer, il voulait et il était aussi écrivain. En fait.
Il était totalement écrivain au début. Ça, Les Orglubes et les Girafes, c'est des pièces qu'il a écrites quand il avait 25 ans. Quand il marchait là, dans Saint-Germain-des-Prés, il ferraillait qu'avec des auteurs. Je crois qu'il a d'ailleurs croisé Pérec, tout ça... toute une vie de poésie, de poète urbain. Il était,
c'est beau, une ville la nuit, c'est une phrase à lui, ça.
Ouais,
ouais. Parce devenue, que ça fait justement poème très Brautigan.
Ouais, c'est vrai.
Rien que c'est beau, une ville la nuit, en soi, ça ne veut rien dire de particulier. Mais on comprend tout de suite.
Ouais. Il est resté, ce titre.
Chacun pense à une ville en particulier, mais le titre est vachement resté.
Ouais. On ne sait plus que c'est lui qui l'a écrit, mais il est resté. Ouais, il était vraiment écrivain du trottoir, quoi, en début. Hein.
Mais acteur, à défaut de pouvoir vivre de l'écriture,
non,
ou alors
pas.
Les deux?
Non, je crois que c'était une époque où les choses se mélangeaient. Mmh. Il ferraillait avec des scénaristes, Gérard Braque, ou je sais pas toutes les... Et puis, il était très ami avec des poètes, Saint-Germain. Et puis, ça se mélangeait. Et un jour, on te prenait parce que tu avais une bonne gueule, tu devenais acteur... Il a rencontré Charles Maton, un peintre qu'il a fait tourner dans son premier film. Mais j'ai l'impression que c'était une époque qui grouillait comme ça de rencontres possibles.
Ah, puis c'est un Richard aussi, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est un Richard aussi.
Je suis en train de
entamer
la psychanalyse. C'est vrai. Boringer, mais...
Ah, mais même, c'est un Richard B.
Richard B, ouais.
RB.
Ouais.
Richard Brautigan, Richard Boringer. Oh là là. Et donc j'adore, je suis pas.
Oh là, bien stabiloté aussi.
J'adore son écriture.
C'était son exemplaire ou c'était le vôtre?
C'est le mien. Ouais. Et alors, j'ai pour projet d'adapter ça, 15 rounds, qui est son dernier livre.
Je ne sais pas si je vois quelque chose, hein, mais c'est juste pour...
J'ai pour projet de l'adapter au théâtre et que Richard remonte sur scène là prochainement, à l'automne.
Allez, merci.
J'ai passé ma vie sur la route, tout seul, avec mes fils, avec la musique, avec mes filles. Enfin, avec la blonde. Des milliers et des milliers de kilomètres, coureur de savane, enjambeur d'océan. Voilà ce que je ramène, 15 rounds, celui qui clôt, qui ferme le rideau.
C'est étonnant parce qu'il a une voix particulière, Richard Boringer. Ouais. Et donc, même en vous écoutant vous le lire, j'entendais quand même sa voix.
C'est vrai, elle supplante, vous voulez dire.
Ouais, c'est une voix quand même puissante
quelle chance,
d'identifier, quoi.
Ouais.
Ouais. Vous savez le limiter ou pas? Vous l'avez déjà fait?
Non, jamais. Attends, viens, vas-y. J'ai passé ma vie sur la route, tout seul, avec mes fils, avec la musique, avec mes filles. Enfin, avec la blonde. Des milliers et des milliers de kilomètres. Coureur de savane, enjambeur d'océan. Voilà ce que je ramène. 15 rounds. Celui qui clôt, qui ferme le rideau.
Pas mal.
Ça le fait. Ça, c'est la première fois. Pas mal ou pas?
Ah si, bien, très bien.
C'est vrai, c'est excellent.
Faut qu'on parle de ce livre-là aussi, parce que juste avant d'allumer les micros, on a fait un tout petit tour pour savoir
livres à côté desquels il ne fallait pas trop passer.
Quoi. Ouais.
Et à la fin, vous m'avez dit, ah, mais il y a celui-ci qui est magnifique,
ouais,
et qui a trusté la rentrée littéraire de septembre. C'est le livre d'Anthony Passeron, Les enfants endormis, mmh, chez Globe, et qui est un récit bouleversant.
C'est un livre qui m'a totalement bouleversée. Alors moi, c'était bien avant que ça fasse, vous dites comment, là le...
Ça a trusté.
Trusté. Mais... bien avant. Je lis une petite critique dans Les Inrocks de la rentrée littéraire. Je suis assez touchée par le résumé du livre qui est un jeune auteur va se pencher sur le passé endormi de sa famille.
C'est à la campagne, chez un
arrière-pays niçois.
Son mieux dans la vie.
Famille de boucher de père, voilà, en fils.
Et le fils.
Un des fils.
Un des fils.
Donc l'oncle de l'auteur.
L'oncle de l'auteur.
Décroche du parcours familial.
Voilà.
Voilà, dans cette longue tradition de boucher de père en fils.
L'enfer de drogue et tout, et de sida.
Il va rencontrer la grande ville, donc. Pas loin, Nice, à l'époque où l'héroïne commence à se répandre. Et puis, c'est les débuts du sida, maladie totalement, au départ, mystérieuse, lointaine. Et
les chapitres du récit, d'ailleurs, alternent avec
la construction
un récit sur comment les chercheurs ont trouvé ce que c'était que ce virus.
C'est marrant, d'ailleurs, un peu comme Pérec. C'est-à-dire un chapitre qui concerne vraiment l'enquête d'Anthony sur sa famille, et le chapitre suivant, hyper documenté, sur l'avancée des recherches sur le sida. Il y a comme ça un truc un peu shakespearien, moi, je dirais, sur ce qu'on sait, nous, inéluctable, de l'avancée de la maladie. Mais chapitre après chapitre, redécouvrir aussi cette époque folle, à quel point la solitude des chercheurs au départ, ouais, le refus d'en entendre parler.
Le mépris, c'est un truc qui n'existe pas.
Voilà, si ça concerne le PD, hein, c'est ce qu'on
disait. C'est ça.
Ça concerne l'acharnement de certains médecins. Enfin, d'abord, c'est passionnant de repasser par là. Et puis, le parallèle avec... c'est marrant, ce qui m'a bouleversé chez Anthony Passeron et un peu ce qui me bouleverse chez Annie Ernaux. Et un peu ce qui me bouleverse aussi chez Édouard Louis, c'est marrant. C'est comment rééclairer les vies minuscules et en faire... ça, dans la littérature, ça me bouleverse. Là, vraiment, lui, il dit à un moment donné, c'est magnifique, il le dit dans son prologue.
Il y a des pages entières stabilotées, là.
Ah oui, parce que je suis assez obsédé par ce livre. Et d'ailleurs, alors, attends, voilà. C'est une des choses qui, moi, par exemple, me fait adorer des livres, me donne envie de faire des films et tout ça. Il dit, écrire, c'était la seule solution pour que l'histoire de mon oncle, l'histoire de ma famille ne disparaisse pas avec eux, avec le village. Pour leur montrer que la vie de Désiré s'était inscrite dans le chaos du monde, un chaos de faits historiques, géographiques et sociaux, et les aider à se défaire de la peine, à sortir de la solitude dans laquelle le chagrin et la honte les avaient plongés. Pour une fois, ils seront au centre de la carte, et tout ce qui attire habituellement l'attention se trouvera à la périphérie, relégué, loin de la ville, de la médecine de pointe et de la science, loin de l'engagement des artistes et des actions militantes, ils existeront, enfin, quelque part.
Écrire, c'est fixé, quoi. C'est gardé. C'est comme on nomme, ça ne meurt jamais, quoi.
Ouais, exactement. C'est ça, ou pas ?
Ah bah, magnifique, ouais.
C'est ce que fait Pérec, c'est ce que fait Anthony.
C'est ce que font tous les écrivains, en fait.
Tout le monde a cité cette phrase de son dernier bouquin, là, le jeune homme. Mais... si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu'à leur terme. Elles ont été seulement vécues. Ça me touche énormément.
C'est presque la définition de la littérature. Parce qu'il y avait aussi du Houellebecq, du Philippe Ross et tout, mais on ne peut pas faire toute la bibliothèque.
Non,
donc on va vous remercier, Romain Bouranger.
Vous êtes trop sympa, j'aime bien avoir fait ça.
Merci beaucoup. Je me rappelle qu'avant d'ouvrir les micros, vous m'avez dit « j'ai rien à dire sur mes livres ». Et on va devoir couper parce qu'on en fait trop.
Okay.
Merci beaucoup, Romain Bouranger.
C'est marrant de faire ça, j'adore. J'ai envie d'écouter toutes vos émissions maintenant.
Ah, mais vous ne privez pas.
Ah ouais.
Merci beaucoup.
Écoutez, merci à vous.
Et je rappelle, « Respire », c'est la pièce que joue Romain Bouranger à Paris, à la Scala.
La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre sur Europe 1. Philippe Tesson, le grand Philippe Tesson, nous a quittés il y a quelques semaines. C'était un être d'une gentillesse extrême que j'ai rencontré quand j'ai commencé à Europe 1, quand j'avais 24 ans. Et lui, le grand journaliste de combat, me parlait comme si j'étais un vrai confrère. Il avait le don de mettre en valeur son interlocuteur et de rester léger en tout, tout en faisant les choses sérieusement. Et justement, sa bibliothèque, c'est du sérieux. La plus grande que j'ai jamais visitée dans les 200 visites de bibliothèque. Il nous en avait ouvert les portes en 2017. Retournons-y. Bonjour Philippe Tesson.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir chez vous. On est à Chatou, en région parisienne, dans votre grande maison avec un grand jardin. Là, on est dans votre bureau, mais on voit par la fenêtre des grands sapins, des grands arbres. Vous êtes au milieu de la nature, là, alors qu'on vous imagine plutôt parisien.
Oh, je ne suis pas parisien du tout.
Ah bah, on vous imagine comme ça.
J'ai un pied à terre à Paris, j'y vais le moins souvent possible. Je suis très heureux à la campagne, si on peut appeler ça la campagne.
Et là, donc, on est dans votre bureau, il y a déjà une énorme bibliothèque, on va y revenir. Il y a même une petite échelle pour grimper aux étages supérieurs de la bibliothèque. Mais c'est là, votre bureau, c'est là que vous écrivez. Et j'observe qu'il n'y a pas d'ordinateur.
Quel observateur attentif, il n'y a pas d'ordinateur.
Vous écrivez tout à la main.
Je n'ai jamais écrit sur un ordinateur. J'écris tout à la main. J'ai essentiellement fait des quotidiens. L'écriture du quotidien est une écriture très particulière. Elle doit être rapide, elle doit être concise. Elle n'est pas forcément approximative, elle est la mieux qu'on puisse faire. Mais en vrai, c'est une écriture quand même assez superficielle. Ce n'est pas une écriture sophistiquée. Donc, je ne suis pas écrivain. Et en plus, je suis journaliste. Comme personne humaine, j'ai besoin de livres qui me plaisent, qui m'intéressent, qui ont fait ma culture générale. Mais comme journaliste, j'ai besoin de livres nécessaires à mon métier de journaliste. C'est pourquoi je suis généraliste, en plus, pourquoi dans la bibliothèque, il y a ici, là où je parle, oui. Ici, dans mon bureau, vous êtes dans mon bureau, j'ai essentiellement des livres utiles à tout moment éventuel de la vie, en rapport avec ma fonction de journaliste.
Mais quel rapport avec le fait de ne pas avoir d'ordinateur ? C'est que vous n'avez pas voulu vous y mettre.
J'en ai pas besoin, j'ai la culture du livre.
Et vous écrivez pourtant pour lepoint.fr.
Montaigne n'avait pas... Mais je m'en fous que ce soit pour lepoint.fr.
Mais comment vous faites ? Vous envoyez par la poste ?
Non, attends, non. J'ai les moyens archaïques. Car je suis quand même encore le seul journaliste de la place de Paris qui envoie encore... Je ne vais plus jusqu'à dicter au sténo. Il n'y a plus de sténo de presse. Ça n'existe plus. Mais j'envoie par des vieux moyens. Il m'arrive d'envoyer par coursier un manuscrit et pas libre au journal de me le dactylographier mon papier et puis de le mettre sur ordinateur. Voilà, c'est comme ça. Et je suis un peu bavard.
Alors, les livres, parce que là, il y a une bibliothèque magnifique, un beau meuble, très grand, très large, avec tous vos livres. Comment c'est classé, en fait ? Comment vous organisez tout ça ?
Chaque chambre dans ma maison a sa bibliothèque. On va peut-être la visiter, on verra. Ça, c'est l'histoire pour moi. L'histoire, la science politique, les idées politiques, la culture politique et sociopolitique, c'est un peu mon matériau de base. Il y a beaucoup d'autres choses. Ici, vous n'avez que ce matériau de base. Alors là, vous avez sur 3-4 rayons, vous avez l'histoire stricto sensu, l'histoire verticale. Et là, dans ce truc qui est très important pour moi, c'est l'histoire horizontale et c'est la culture historique. Vous avez là, vous pouvez regarder.
L'histoire de l'alimentation.
Vous avez Brodel, vous avez Michelet, vous avez Tell, vous avez les manuels d'histoire, vous regardez et puis...
Ça, c'est ce que vous lisez depuis toujours, en fait. C'est votre culture, ça.
C'est la culture basique et fonctionnelle, relative à l'activité professionnelle qui a été principale, qui a été la mienne toute ma vie. Et il y a aussi d'autres choses. Il se trouve que je m'intéresse beaucoup à la littérature, mais c'est à côté. C'est pas tous les samedis, tous les dimanches. Il y a un de ces livres-là que je suis obligé de... ça, c'est l'histoire des idées politiques, vous pouvez regarder.
Et vous montez à cette échelle ou pas ?
Ah bah oui, elle est faite pour ça. En général, quand on voit une échelle, on monte.
Je peux essayer ? D'accord. Ça ne va pas se casser ?
Ça me semble d'une... Ah non, non, mais il vient m'interroger sur mes livres, il essaie mes échelles.
Non, mais elle est très jolie, mais elle ne paraît pas très solide.
Mais si, elle ne paraît pas, mais elle est solide. Ah oui, elle est solide.
Oh, il y a Catherine Ney. Premiers livres de Catherine Ney.
Vous remarquez que d'abord, il y a plusieurs rayons. Vous remarquerez aussi qu'il y a deux ou trois rangées dans chaque... Vous remarquerez enfin qu'il y a un classement historique, puisque en haut à gauche, vous avez les premiers temps de la vie, de l'histoire. Et là, vous avez, par exemple, vous avez là la 5e République. Sur De Gaulle, vous devez avoir 3 ou 4 rayons. Oh, facile, 4 ou 5 rayons.
Oui, effectivement,
sur Mitterrand, vous avez 4 ou 5 rayons. Et puis après, de la même façon que la politique s'est détériorée, le nombre de livres... Là, vous avez la 5e République.
Mais ça vous intéresse toujours ?
Ah bah sinon je repasse, sinon je ferai autre chose dans la vie, je serais pâtissier.
Comme vous dites, ça s'est détérioré, il y a quand même moins de panache, il y a moins de noblesse dans la politique aujourd'hui, non?
Eh bah, donc il y a moins de livres.
Mais ça vous intéresse quand même?
C'est pas tout... Non, il y a une sélection. J'ai pas tous les livres qui concernent la Ve République. Je fais ma sélection. Je travaille 2 jours par semaine sur mes livres, enfin avec d'autres activités, mais le samedi et le dimanche, c'est consacré à la lecture des livres que je reçois, que je lis ou dont j'ai besoin pour écrire. C'est le principe d'une bibliothèque de travail.
On peut visiter le reste des pièces?
On passe à côté parce qu'il y a beaucoup de pièces.
Là, c'est l'antichambre du bureau, si on veut. Hein.
C'est ça, c'est... si on veut, oui. C'est vrai, vous avez raison, c'est l'antichambre. Alors ça, c'est des livres à feuilleter rapidement. Ça, c'est la littérature française, par ordre alphabétique. Elle est ici, elle est également ailleurs. C'est pas ordre alphabétique, il y a tout ce qu'on veut.
Chateaubriand, Sioran.
Il y a Sioran, il y a la Bruyère.
Chateaubriand, ça vous correspond bien, non?
Moins que ça ne convenait à, que ça ne correspondait à Jean d'Ormesson. Mais j'aime beaucoup, ça fait partie de mes livres de chevet. C'est les livres qu'on a besoin de lire pendant 10 minutes un soir avant de dormir. Mais on va aller vite parce qu'il y en a beaucoup. Et il y a comme ça une dizaine de bibliothèques. Et puis il y a la cave où il y a les résidus.
Michel Butor. Et vous lisez beaucoup de littérature ou pas?
Je lis beaucoup de littérature parce que je m'intéresse à la littérature. Puis il m'est arrivé de faire de la critique littéraire, notamment dans des émissions. J'ai eu une émission littéraire à la télévision pendant quelques années. C'était dans les années 90. Je faisais la littéraire de France 3. Ça s'appelait A, quel titre? Alors là, j'ai la littérature étrangère.
Dans chaque couloir, il y a une bibliothèque.
Là, j'ai une littérature étrangère, par ordre alphabétique. Il y a les Japonais en haut, il y a les Germaniques en bas et il y a les Américains au milieu. Voilà, ça c'est un couloir. Ça c'est une chambre, c'est la chambre d'une de mes filles, théâtre.
Oh, oh.
D'ailleurs, toute cette chambre est consacrée au théâtre.
Il y a des masques partout, il y a même un petit théâtre.
Voilà, il y a un automate.
Ouais,
il y a des masques, il y a un automate, mais il y a des livres. Alors si vous regardez les bibliothèques, ça va de A à Z. C'est le théâtre, une sélection des grands auteurs de théâtre, dont, encore une fois, j'ai besoin, puisque j'ai un théâtre, j'ai une librairie théâtrale à Paris, j'ai une maison d'édition de théâtre, et je suis critique de théâtre. Vous pouvez regarder, si vous vous méfiez, vous verrez, c'est classé. C'est le con qui est content de lui.
Mais ça, ce n'est pas la bibliothèque de votre fille, c'est à vous.
Toute la bibliothèque est à la disposition de la famille, j'ai l'esprit de famille.
D'accord, mais c'est vous qui l'avez constituée, c'est vous qui l'avez
triée. Ah oui, mes enfants s'y intéressent, d'ailleurs, ils l'utilisent. Et ça me rend assez furieux parce que très souvent, l'inconvénient de la bibliothèque, c'est que les gens passent, ils prennent un livre et ne vous le rendent plus. Là, vous avez des collections.
Staline, Pétain.
Qui sont connues, le pluriel.
Charles IX.
Le Point, toutes ces collections.
Ah ouais. C'était
là,
bien rangé.
Là, j'ai les religions. Là, il y a un peu le bordel.
Oh mon Dieu.
Ça, c'est moi.
Un livre de Philippe Tesson.
Oui, mais.
Il faut savoir que vous n'avez jamais écrit de livre à part deux. Après 60 ans de carrière de journaliste, vous refusez d'écrire des livres. Pourquoi?
Parce que je suis un écrivain de l'instant, de l'éphémère, je suis journaliste. Je suis pas, j'ai pas la prétention d'être écrivain. Tout le monde se dit écrivain aujourd'hui, n'importe qui écrit un livre. C'est bien d'ailleurs. Enfin, que c'est pas pour ça qu'il est un écrivain. Il écrit des livres, mais c'est pas forcément ce qu'on appelle un écrivain socio-historiquement.
Écoutez, vous êtes journaliste. Libraire. Vous tenez même une agence de voyage. Vous avez été patron de presse. Vous avez plusieurs facettes quand même. Vous pourriez avoir celle de l'écrivain.
Ben c'est exact. Non, c'est pas parce qu'on a des livres qu'on est écrivain. C'est pas parce qu'on écrit des petites choses comme l'histoire du gouvernement de Gaulle entre 1944 et 1946.
Il date de 1965, celui-ci. De Gaulle premier. Philippe Tesson, La Révolution
manquée. C'est une commande d'Albin Michel. On m'a demandé si je voulais bien faire un livre sur ce sujet. J'ai dit oui parce que ça m'intéressait. Je fais encore ça à la télévision. Maintenant, je suis en train de des spectacles de télévision. Ce sont des occasions de faire une émission ou de faire un livre. Je suis un écrivain occasionnel, si vous voulez. On va pas s'emmerder. On va pas pinailler pendant une heure sur le problème sémantique.
Est-ce qu'au fond, c'est que vous avez peur de ne pas écrire un chef-d'œuvre?
Peut-être. Inconsciemment, c'est peut-être ça. Non, ou alors, c'est parce que je n'ai pas peur, je suis lucide et je sais que je n'écrirai jamais les mémoires d'outre-tombe. C'est peut-être ça, oui, vous avez raison. Mais je m'en fous, je ne me pose jamais la question, pas trop souvent, la question de savoir pourquoi. Se poser la question de savoir pourquoi on fait les choses, c'est s'empêcher de les faire, parce que ça fait perdre du temps. C'est un peu ça ma philosophie. Mmh. Bon, je suis extravagant, je suis un peu exubérant, un peu extraverti, je dis les choses avec emphase, alors que c'est pas très important ce qu'on se dit. Mais vous comprenez très très bien ce que je vous dis, parce que vous êtes extrêmement intelligent et que vous avez sans doute, comme tout le monde aujourd'hui, l'ambition d'écrire un livre.
Donc, j'en ai écrit 3.
Vous emmerdez pas, mais je savais que vous alliez me répondre ça. Ben alors vous vous posez plus la question de savoir pourquoi on écrit.
Non, mais je me pose la question de savoir pourquoi vous écrivez pas.
Mais je vous l'ai expliqué.
Oui, mais j'ai compris.
Bon, alors on n'en parle plus.
Et j'ai plusieurs amis journalistes qui voudraient écrire une biographie de vous, mais paraît-il, vous refusez obstinément.
Exactement.
Pourquoi?
Parce que j'ai la notion de l'éternité, du temps qui passe, de la durée. Et je me mets dans la peau d'un mec dans 300 ans qui verra s'il y a encore des livres, s'il y a encore des bibliothèques, qui trouve un livre de moi. Et je pense qu'il n'aura pas l'envie. Saura-t-il lire, ce monsieur? Et il n'aura pas le temps de le faire. Je ne suis rien du tout à l'échelle de la durée de l'humanité. À l'échelle, vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
Alors évidemment, on lira peut-être très longtemps encore Montaigne. Mais Montaigne, c'est Montaigne. Moi, je suis Tesson. Ah bon, qui c'est Tesson? Vous voyez ce que je veux dire?
Mais si, c'est bien le père de Sylvain Tesson.
Ah, vous savez que ça m'agace beaucoup, ça. Parce que avant, on disait...
C'est le fils de Philippe.
Oui, on disait fils de Philippe, maintenant on dit le père de Sylvain.
Ils sont où ces livres alors?
Il a un talent fou, mon fils. Alors, je crois qu'ils sont là.
Vous avez tous lu?
Ah oui. Ah, oui. Là-dedans,
Nouvelle
il y a tout
de l'Est.
Là, il y a tous les livres de ma famille. Ça, c'est ma famille. Ça, c'est ma femme qui a écrit des livres.
Ah oui.
Marie-Claude Tesson, qui a écrit des romans. Ça aussi, c'est ma femme. Ça, c'est Sylvain.
Là, il y a Dans les forêts de Sibérie, c'est un peu son chef-d'œuvre, non?
Oui, j'aime beaucoup ce livre. Oui. Ça, c'est des préfaces que je fais, moi. Je fais beaucoup de préfaces, parce que comme tous les nuls, je sais écrire des livres. Des préfaces, je ne sais pas écrire des livres.
Mais Sylvain, il vous fait peur à partir comme ça, aux quatre coins du monde?
Il m'a beaucoup angoissé dans ma vie, surtout quand il avait 20 ans et qu'il partait faire le con. Ça m'a beaucoup angoissé. Mais on l'a laissé partir parce que c'était sa liberté. Et s'il n'était pas parti, il aurait été malheureux, malade, et il serait devenu une loque.
Aujourd'hui, vous avez moins peur quand il part aux quatre coins du monde? Vous êtes habitué?
Mais il est un peu plus responsable, je crois. Il prend quand même un peu moins de risques qu'autrefois. Mais puis il est grand, enfin, quand même.
Ça ne vous empêche pas d'être angoissé?
Ça m'angoisse, oui, je le dis, oui. Ça m'angoisse, mais je surmonte cette angoisse. Je suis très heureux pour lui, puis je trouve qu'il a beaucoup de talent. Puis qu'il est libre, au moins. Au moins, il fait ce qu'il veut. On va à la cave?
Il y a encore des livres à la cave?
Ah oui, la cave, elle est remplie de livres. Il y a du vin aussi. Dans la cave. Ah ben, il y a un autre chat, mais il ne barbe pas ça. Je respecte.
Il y a un chat sur la marche. C'est dangereux, ça.
Allez.
Ouais, mais vous me faites peur, Philippe.
J'adore celui-là. J'adore les chats noirs.
Vous n'êtes pas superstitieux?
Non, pas du tout.
Ah, mais c'est carrément un dépôt de livres, en fait, cette cave.
Alors, il y a encore des choses dont je me sers à la cave. Ça, par exemple. Ça, je pense qu'il n'y a pas de semaine où je ne descende pour consulter un de ces livres.
Et pourquoi vous ne les remontez pas?
Ça va. Parce que je n'ai pas la place. Ça va de A à Z. Ça part de qui? Ce sont des analyses littéraires.
Vous savez combien vous avez de livres ou pas?
Il doit y en avoir 5-6 000.
Ouais, là, on entre dans la vraie cave. Là.
Ça, c'est les archives de combat du quotidien de Paris.
Et ça vous arrive d'aller piocher dedans?
Je n'avais pas
voulu. Vous les gardez pour les garder?
Je les garde pour mon ultime vieillesse ou ma mort. Ou après ma mort. Il y a beaucoup de lettres. Il y a quelques documents. Il y a une correspondance qui est parfois intéressante. Il suffit d'ouvrir, puis je verrai ça un jour.
Des dossiers secrets que vous n'avez jamais sortis?
Je ne suis pas vraiment secret. Je ne suis pas à la mesure du secret, moi. Bon, enfin, j'ai vécu. J'ai parfois des choses intéressantes. L'autre jour, mon fils en a ouvert, il a trouvé une belle lettre de Monterland.
Ah oui, quand même.
Il y a tout ça là-dedans. Ça, c'est des revues.
Et alors, c'est bien fait parce qu'ils sont protégés à la base avec du plastique en cas d'inondation.
Exactement. Ça demande un entretien, un livre. Il faut venir les voir de temps en temps. Et puis, comme on fait avec les êtres humains, on est content de les retrouver, on fait un dîner, on se dit on se reverra, on ne se reverra plus jamais, et puis on se jette.
Mais on aurait voulu.
Voilà.
Bon, merci Philippe Tesson de nous avoir fait visiter toutes ces bibliothèques.
Je vous en prie. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Et ça n'a pas un intérêt fou. Mais enfin, où est l'intérêt à des choses? C'est difficile de mesurer l'intérêt. Il n'y a que des chats ici. Difficile de mesurer l'intérêt des choses.
Philippe Tesson. Je me demande ce que tous ces livres orphelins vont devenir. Tiens.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
Dernier chapitre, épilogue de La Voix est libre avec Sébastien Bordenave pour la bande dessinée, Héloïse Goy, littérature jeunesse, et notre libraire de la semaine, Anne Burzinski, librairie L'Écriture à Vaucresson. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Anne, priorité au libraire, un roman.
Waouh. Alors, je vais vous parler, alors c'est pas tout à fait un roman, j'ai choisi de vous parler d'un livre qui s'appelle « Deux vies », qui est traduit de l'italien, c'est « Due vite ». Voilà, je me raconte, je ne parle pas du tout italien, calmez-vous. Mais c'est un livre qui est écrit par Emanuele Trevi, qui est un auteur italien qu'on ne connaît pas, mais qui écrit extrêmement bien, j'ai eu l'occasion de le vérifier. Et il va nous parler de deux autres monstres italiens, Pia Pera et Rocco Carbone, qui sont en fait deux auteurs majeurs de la littérature italienne, mais que nous, on ne connaît pas bien. Et qui étaient accessoirement des amis proches qu'il a eus et qui sont tous les deux morts prématurément. Et donc, il va nous parler d'eux, mais pas seulement comme des écrivains, justement, même si ça, c'est déjà passionnant, mais comme des humains, avec leurs contradictions. Avec... Et moi, j'adore ces portraits qui sont fins, qui sont justement matinés d'observation, en fait, et qui nous montrent bien à quel point on est complexes les uns les autres. Et évidemment, donc, le rapport à la littérature est splendide. Et c'est vraiment un livre... absolument marquant, presque nécessaire. En fait, si vous êtes amoureux de la littérature, italienne ou non, peu importe, c'est un livre qui me paraît presque incontournable, en fait. Et là, une fois de plus, une petite mention quand même à la traductrice Nathalie Bauer, qui est elle-même, d'ailleurs, auteure-autrice de littérature française, mais qui a aussi traduit La librairie sur la colline, dont j'avais déjà parlé. C'est l'habitude.
Et Anne, vous avez une passion pour les traducteurs, les traductrices.
Ben en fait, je me dis que souvent j'ai oublié de parler d'eux, alors qu'en fait, c'est les auteurs que nous, on a pour la version française.
Oui, une mauvaise traduction, ça peut faire un très mauvais livre.
Complètement. Et en plus, là, c'est quand même assez complexe à traduire. On sent que c'est un livre littéraire un peu exigeant. Donc, waouh, chapeau, en fait, vraiment.
Vous nous redonnez le titre ?
Bien sûr. En français ou en italien ?
En italien.
De vie, et c'est chez Philippe Rey. De vie de Emanuele Trevi.
Due vite. Merci beaucoup Anne Burzinski. Héloïse Goy.
Un roman pour les enfants dès 10 ans. Ça s'appelle John, c'est écrit par Emmanuel Bourdier. Alors, sur la couverture orange, on peut voir le dessin d'une silhouette au costume de collégien anglais qui marche dans une rue. Ne me coupez pas, Nicolas, s'il vous plaît. Vous allez gâcher ma chute. Qui marche dans une rue qui s'appelle Penny Lane. Le visage de profil nous est familier. Si on regarde bien, là, vous pouvez parler.
C'est John McCartney.
J'ai eu un bug. Effectivement, c'est celui qui est à l'origine de cette chanson. Vous reconnaissez, la chanson Imagine. Il s'agit de John Lennon, mais de John Lennon enfant, comme on peut le voir sur la couverture, parce que ce roman est une autobiographie rêvée de John Lennon enfant. John est donc
c'est lui qui parle.
C'est ça, le narrateur de sa propre histoire romancée, mais inspirée tout de même de sa vraie vie. On est à l'aube des années 50, John n'est pas encore Lennon, il a 11 ans, enfin si, il est déjà Lennon, mais pas Lennon qu'on connaît.
Pour nous,
c'est ça. On est à Liverpool, en Angleterre. Le petit garçon vit davantage avec sa tante Mimi qu'avec sa mère Julia. Il connaît presque pas son papa qui est parti à l'autre bout du monde sans se retourner. Avec ses lunettes déjà chaussées sur le nez, il aime dessiner, lire Alice au Pays des Merveilles. Et il adore déjà les mots parce qu'il constate qu'ils peuvent servir à s'échapper, à réparer ou même à tout foutre en l'air. Il faut dire que John est un petit garçon à fleur de peau. Il a une imagination débordante. Tout un monde bouillonne dans son crâne. Il couche tout ça dans son journal intime. Et alors comme il est très souvent dans la lune, il se fait régulièrement disputer par son professeur, Mr. Barrow, qui lui répète que artiste n'est pas un métier sérieux parce que, je cite, « c'est une chimère qui n'éblouit que les esprits faibles et étroits ». Il avait le nez creux, Mr. Barrow. Hein. Qu'importe, l'objectif ultime de John est de taille. Il souhaite à tout prix devenir lui-même et devenir soi-même quand on est le futur John Lennon. Eh bien, ça passe par la poésie et la musique. Plusieurs scènes évoquées dans ce livre font écho à des chansons célèbres du chanteur qui nous sont proposées en playlist via un QR code à la fin de l'ouvrage. C'est quoi votre chanson préférée de John Lennon ?
Jealous Guy.
Jealous Guy, j'allais le dire, ouais.
Sébastien ?
Satisfaction.
Moi, j'aime beaucoup celle-ci dans laquelle il parle de sa maman. Chanson qui prend tout son sens quand on lit cette autobiographie rêvée. À l'image de John Lennon, ce roman est tendre, lumineux et poétique malgré un parcours de vie parfois sinueux. Bref, comme le dirait l'auteur de ce roman, All You Need Is John.
Ah.
C'est pas mal.
Ah,
c'est John d'Emmanuel Bourdier chez Flammarion Jeunesse.
Vous avez le nom de la chanson ?
Mother.
Mother, ok.
Voilà.
Merci beaucoup, Héloïse. Sébastien, de BD.
Oui, vous savez, quand on parle à certains hommes de violences faites aux femmes et que leur première réaction, c'est de dire « Oh, mais moi, non !» Bah, on appelle ça le « Not all men », pas tous les hommes. Et bien là, la BD, elle s'appelle « Not all robots ». C'est publié chez Delcourt. On doit le scénario à un Américain qui s'appelle Mark Russell et c'est dessiné par un Brésilien, Mike Deodato Jr. Les deux ont de la bouteille et ça se voit. Et l'histoire dystopique est super bien trouvée. On est en 2056. Le problème des retraites, bah, il est réglé parce qu'en fait, on ne bosse plus. Les tâches pénibles et pas pénibles, elles sont confiées à des robots. Chaque famille a son robot. C'est le cas de la famille Walter. Et la famille, bah, là, les chocottes, parce que leur robot, après sa journée de travail, il va directement à la cave et il bricole plein d'armes. C'est d'autant plus inquiétant que les robots ont de plus en plus de bugs. Et c'est fâcheux parce qu'ils gèrent tout, les robots, notamment les bulles atmosphériques au-dessus des villes. Et les robots, ils contrôlent le dosage de l'air. Bah, des fois, il y a une petite boulette à Orlando, paf, un petit souci de pourcentage, 200 000 morts. Oui, bon, voilà. À la télé, il y a des débats entre humains et robots. Les robots rappellent que quand même, les humains sont hyper émotifs, incohérents et paresseux, et accessoirement, ils ont fait de la terre une patate rôtie. La révolte gronde, ça se crispe côté humain et côté robot. Qui va gagner ce bras de fer ? Suspense. Bref, c'est une BD avec de la tension et des boulons. C'est Not All Robots chez Delcourt. C'est pas mal du tout.
On peut pas les débrancher, quoi.
Ouais, on peut pas les débrancher.
C'est un peu le scénario que tout le monde redoute pour de vrai, en plus.
Un peu, ouais.
On se fait passer par les robots.
Ouais. Deuxième BD, c'est Zombie World. Bah là, on reste dans le surnaturel avec cette BD rééditée chez 404 Graphiques, rééditée parce qu'elle est déjà sortie en France en 98. Et c'est une super bonne idée que cette réédition, car l'histoire elle est de Mike Mignola. On lui doit la création de Hellboy, pour qui s'intéresse un peu aux comics. C'est une référence. Et les dessins sont de Pat McEwan. Exactement. On dirait un mix entre Hergé, Tardy, Blake et Mortimer, mais à la sauce Walking Dead. D'ailleurs, le papa de Walking Dead a déclaré qu'il avait été très impressionné à la lecture de cette BD. 3 ans après, il a créé Walking Dead. L'histoire est simple, c'est celle de la momie Azul Gotha. Elle est dans son sarcophage depuis 42 000 ans. Bah, y a un inconscient qui l'a manipulée. Hop, la momie en profite pour sortir et réveiller toutes les autres momies qui sont dans le même musée qu'elle. Une bataille épique commence. On est dans une ambiance pulp horror. Vous savez, le nom des magazines pulp américains un peu kitsch des années 50. Mais avec cette belle réédition en couleur, il y a en plus des croquis de recherche à la fin, des pochettes originales du maître Mignola. Ça fait une très belle BD qui dessine aussi haut que son culte. En plus, il y a de l'humour. Ça s'appelle Zombie World.
Il est tout content.
Le champion des vers, ça s'appelle chez 404 Comics. Ouais, j'aimais bien cette expression.
Non, c'est pas mal.
Je m'y attendais pas.
Et votre citation, c'est quoi ?
Ma citation du jour. Une citation du chat de Gueulux. C'est toujours efficace. Ouais. Le chat, il dit...
Presque trop facile.
Oui, un peu, mais bon. Je suis pour le partage des tâches ménagères. Du coup, à la maison, c'est moi qui passe l'aspirateur à ma femme.
Parfait. Bah, en fait, quand vous n'en avez pas, vous allez dans le chat, quoi. Il y en a une par page.
Oui.
C'est ça. Mais c'est vrai qu'elles sont magnifiques. Héloïse Bois, vous nous rappelez John ?
John de Emmanuel Bourdier chez Flammarion Jeunesse.
Et moi, c'est Devi de Emmanuel et Trévi.
Qu'on retrouve dans votre librairie, l'écriture à vos cressons. Merci à tous les trois et merci aussi à Agnès Vaudin pour la préparation de cette émission, à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, à Mathieu Frette aussi derrière la console.
Europe 1, 14h, 15h, la voix est libre.
Nicolas Carreau.